L'Église de la Victoire du Québec vous présente un message de foi et de victoire par le pasteur Joel Spinks. Nous prions que vous recevrez la révélation qui vous permettra de découvrir et de saisir la vie abondante prévue par Dieu pour ses enfants.
Et ce matin, l'enseignement va s'intituler « Les voies de l'Éternel ». Donc ce matin, ce n'est pas les voies qu'on entend, c'est les voies, les chemins. Les voies de l'Éternel. Est-ce que vous êtes prêts d'aller dans la parole de Dieu ce matin?
Amen.
Amen. Gloire à Dieu. Alors, les voies de l'Éternel, c'est merveilleux parce que Dieu, il ne joue pas à la cachette. Et puis, son plan pour nous n'est pas caché non plus. Hein, des fois, on pourrait s'imaginer que Dieu est difficile à trouver, mais Dieu n'est pas difficile à trouver. Il nous a déjà tout donné dans sa parole, le chemin à suivre. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin de faire? C'est lire sa parole, être attentif à sa voix, et Dieu va nous bénir et puis va nous guider dans le bon chemin. Alors, on va prier ensemble que Dieu dispose nos cœurs pour l'enseignement de la parole de Dieu. Seigneur, on vient devant toi encore et Seigneur, on veut te remercier pour les promesses de ta parole. Puis on veut te remercier, Seigneur, parce que ton esprit est agissant en nous aujourd'hui. Seigneur, je te prie de disposer nos cœurs, qu'on puisse vraiment recevoir le dépôt, Seigneur, que toi, tu as dans ton cœur pour nous. Merci, Seigneur Dieu, pour ce cadeau que tu nous fais de ta présence, ce cadeau, Seigneur, de ta connaissance, Seigneur. Pas la connaissance des hommes, mais la connaissance qui vient directement du ciel. J'ai pris au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vais vous inviter ce matin à tourner dans Ésaïe 55 et on va aller au verset 8. Ésaïe, chapitre 55, commençant au verset 8. Ce matin, on va parler de toutes sortes de choses. Entre autres, on va parler aussi de la victoire qui est dans le chemin de Dieu. Dieu nous guide dans la victoire. Et hier, mon épouse et moi, on a flippé un petit peu des postes. On a vu, il y avait une publicité pour un spectacle d'humoriste. Et puis, Mathilde, elle me disait, tu sais, c'est triste qu'on pense à ça. On voit toute une grande foule de gens, mais ils ne s'en vont pas écouter une prédication. C'est pas pour louer le Seigneur, c'est pour aller entendre quelqu'un leur raconter des blagues. Puis c'est correct, ça, de rire. J'ai rien contre ça, rire. Mais c'est que les gens sont obligés de payer pour rire au Québec. C'est un peuple qui n'a pas d'espoir. C'est un peuple qui est sans Dieu en grande partie. Puis au Québec, on est comme ça. Pour avoir de la joie, là, les gens sont prêts à aller payer pour aller se faire rire, hein, pour rire. Puis on aime ça rire, c'est correct de rire. Mais c'est un fait, par exemple, au Québec, qu'est-ce qui est vraiment populaire, c'est ça, les humoristes. Puis on pensait à ça, il faut payer pour rire. Et puis, moi, qu'est-ce que ça fait? Ça stimule dans ma foi que Dieu il va faire quelque chose prochainement pour le peuple québécois. Parce qu'on peut rire, mais pour Dieu aussi. Se réjouir dans la présence de Dieu. En passant, je veux saluer le pasteur Adam de Valcourt qui est ici parmi nous. Bienvenue parmi nous, pasteur. On est content de vous avoir. Et puis, on a besoin justement des ministères comme le frère Adam. Il se promène un petit peu partout à travers le Québec avec le pasteur Bertrand Bouchard et le pasteur Pincinx. Et puis, ils font des réunions d'évangélisation pour le Québec. Et on croit là-dedans, nous, dans l'évangélisation, certainement. Et puis, nous, qu'est-ce qu'on a dans notre cœur ici? C'est les médias. Que Dieu veut se servir des médias. Et même s'il y a des humoristes chrétiens, on va les encourager. Nous faire rire des choses de Dieu. Il y en a même, hein? Il y a une émission qui s'appelle Bananas. Et puis, c'est l'humour selon Dieu. C'est tout des jokes, puis ça nous fait rire, mais c'est tout des jokes propres et c'est le fun. Dieu, il n'est pas contre ça, rire et sourire. Mais c'est quand on rit pour des jokes toujours croches ou pas corrects, c'est pas très, très bénissant pour nous. Mais un autre fait sur le Québec. Mon épouse est en train de regarder La Voix de l'Est hier, et puis elle s'est aperçue, bon, un petit feuillet comme ça, je vais vous montrer, pour les gens de la radio, je vais expliquer, là. Il y a Tide, bon, c'est normal, c'est un petit feuillet comme ça, et si vous avez La Voix de l'Est chez vous, vous allez pouvoir voir. Puis après, à la fin, elle regarde, elle dit, Joël, elle dit, il faut que tu lises ça, je ne l'ai pas lu, là, mais j'ai juste vu l'image. Ça dit, l'ange de la chance et de l'abondance. Et puis, profiter de l'énergie positive des anges, amour, santé, chance, travail, prospérité. C'est ça que les gens recherchent. Et ça, c'est dans Voix de l'Est aujourd'hui, ou en tout cas d'hier. Et puis, ils disent que c'est garanti que quand vous allez recevoir cette petite patente-là d'ange-là que vous pourrez porter autour de votre cou, le médaillon, que ça va changer votre vie, c'est garanti. Et si votre vie ne change pas, en dedans d'un mois, vous pouvez faire rembourser cet achat. Et puis en plus, ils vont vous donner un petit cadre en bas ici avec un ange pour vous protéger dans votre maison. C'est là où on est rendu au Québec. Mais ça fait longtemps aussi, on peut dire, les gens ont mis leur foi dans des choses comme ça, qui est c'est un peu, on pourrait dire, l'idolâtrie. Mais les gens placent leur foi dans toutes sortes d'affaires. Puis ça, c'est pas les voies de l'Éternel. Hein? Amen. Si vous voyez ça, allez pas acheter ça. Ça donne rien parce que l'amour, la santé, pas la chance, on croit pas là-dedans, mais le travail, la prospérité, c'est dans la parole de Dieu, c'est pas dans des petites choses comme ça qu'on pourrait se procurer. Mais les gens cherchent, hein? Les gens cherchent Dieu de toutes sortes de façons, puis les gens vont investir de l'argent là-dedans pour porter un petit médaillon avec l'ange, puis ils pensent que ça va changer leur vie. Le Québec a besoin d'un réveil. Le Québec a besoin d'être visité par la présence de Dieu. Et moi, je crois que Dieu a un chemin pour le peuple québécois. Dieu a une façon de les rejoindre. Et puis nous, qu'est-ce qu'on a besoin de faire? C'est de connaître ce chemin-là pour marcher dans ses voies et être béni. Là, on va aller au verset Ésaïe 55, versets 8 à 9. Il est écrit, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies. » Et mes pensées au-dessus de vos pensées. Je vais reprendre au verset 9. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, donc on sait c'est très très haut, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. Donc nos voies terrestres ici, on peut s'imaginer des fois une façon de marcher avec Dieu, mais les voies de Dieu sont toujours encore plus élevées. Dieu nous surprend, Dieu a d'autres façons des fois qu'on ne s'imaginait même pas. Et des fois, il y a des choses qui se passent, puis on se pose des questions, puis on se dit, « Ah, moi, je ne pensais pas de passer par un tel chemin ou une telle voie. » Et Dieu dit, « Passe par là, j'ai un but pour tout ça. » Et vous savez, quand je priais, j'étais en train de marcher, j'aime ça aller marcher dans la montagne à Bromont, et puis je priais pour la prédication de ce matin. Puis en revenant chez moi, après, il y a un verset qui m'est tombé dans mon cœur. Je vais vous lire tantôt, je ne vais pas voler le punch tout de suite, là. Mais c'était concernant l'histoire de Joseph. Connaissez l'histoire de Joseph? Comment Joseph avait une grande destinée, une très grande destinée en Dieu, comme le peuple québécois a une grande destinée. Dieu a choisi le peuple québécois pour faire en sorte que sa gloire éclate parmi nous. Il y a tellement de talents, il y a tellement de dons que Dieu a donné dans le peuple québécois. Même quand on pense à ça, Céline Dion, une Québécoise qui fait le tour du monde comme ça, c'est une chanteuse qui est célébrée partout à travers le monde et nous, on la réclame pour notre Église. Amen. Pour qu'elle vienne chanter, conduire les chants dimanche matin, ça ne dérangera pas aux gens de partager la scène avec elle? Pas du tout. Peut-être elle pourra faire tes bacs. Mais des talents comme ça que Dieu a donné au Québec, et moi je crois là, que c'est pour un but, c'est pour toucher les nations. Et puis c'est ça qu'on va faire. Mais les voies de Dieu, des fois, on connaît la destinée. Et des fois, qu'est-ce qui est déprimant? Moi, que j'ai vécu dans le passé, je peux vous dire qu'est-ce qui m'a déprimé des fois, c'est quand tu vois des choses à l'avenir et tu n'es pas encore dans ta destinée. Tu peux le voir, tu l'as même vu dans le monde spirituel, mais tu n'es pas là encore. Puis là, tu es comme, « Mais Seigneur, je veux être là. » Et le Seigneur dit, « Oui, avant d'être là, par exemple, il faut que tu passes par là. » Et puis, des fois, c'est plus difficile. Passer par un chemin. Des fois, on passe par un désert, mais Dieu ne nous a jamais dit d'aller mettre notre tente dans le désert, hein? De s'établir là en permanence, de s'établir dans le désert, mais il dit de passer à travers le désert, comme le peuple d'Israël ont fait. Mais malgré la grande destinée que Joseph avait, c'était aussi un homme qui a passé par une grande adversité. Je ne sais pas ce qu'il y en a ici qui ont déjà vécu de l'adversité dans vos vies. Un petit peu de difficulté. Il y en a quelques-uns? OK. Pas tout le monde, là, ça de l'air. Il y en a qui ont eu de la vie, c'était juste un champ de roses et puis ça sentait le bon parfum constamment. Mais moi, j'ai déjà passé à travers de l'adversité. Et puis, dans tout ça, des fois, on peut se poser des questions et se dire, Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de faire? C'est quoi que tu veux me montrer par tout ça? Et qu'est-ce qu'on peut faire? On peut choisir d'écouter Dieu et de s'approcher davantage du Seigneur ou de prendre le recul et se décourager. Mais Dieu veut jamais qu'on reprenne le recul en Dieu. Il veut pas qu'on se décourage, mais au contraire, Dieu veut qu'on lève les yeux vers le Seigneur et qu'on vienne puiser notre espoir en lui puis notre réconfort. Si on pense à Joseph, l'histoire, on peut voir dans Genèse 41 ou Genèse 37, il y a plusieurs chapitres, là, on ne prendra pas le temps de lire 10 chapitres ensemble. Mais Joseph, on sait que c'était le chouchou de son père, quand on lit dans Genèse 37. Le chouchou de son père. Mais quand vous m'avez déjà entendu parler, moi aussi, je suis le chouchou de mon Père céleste. Et vous? Amen. Donc, nous sommes tous comme Joseph à un certain niveau. Le chouchou de son père. Et son père l'aimait tellement qu'il avait donné une tunique de plein de couleurs. Okay? Et cette tunique-là représentait la faveur sur sa vie. Et ses frères en étaient jaloux. Avez-vous déjà vécu un moment où une personne a été jalouse de vous? Peut-être, hein? Et là, cette personne-là veut venir vous voler la faveur de Dieu. C'est un symbole de faveur. Et ses frères, on sait, étaient jaloux de lui, l'ont jeté dans une citerne. Et ensuite, pour rendre les choses encore pires, ses frères voulaient le tuer. On connaît l'histoire de Joseph, même dans Walt Disney, on fait un film pour les enfants trippent sur ce film-là. Mais ils voulaient tuer leur frère parce qu'ils étaient jaloux de leur frère. Mais par grâce, Dieu a épargné Joseph, qui s'est fait vendre en Égypte. Quelle compensation, se faire vendre. Au lieu de mourir, au moins il a pu vivre, mais là, il s'est fait vendre pour être en esclavage d'une certaine façon, pour devenir un esclave. Donc, il a été vendu. Et cette tunique a été tachée par le sang d'un bouc. Et là, cette tunique-là a été ramenée au père de Joseph, qui ensuite a vu ça et il a dit, oh, « Mon fils est mort. » Et puis là, il a vécu le deuil, tout ça. Par la suite, on dit, « OK, Joseph est appelé à des grandes choses. » Mais là, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Il a vécu des choses adverses. Et qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Vous savez, Joseph, en plus, a été tenté. Et il a été tenté par la femme de Potiphar. Et on ne rentrera pas dans toute l'histoire parce que vous la connaissez. Il a été tenté par la femme de Potiphar. Et il a résisté à la tentation parce qu'il ne voulait pas aller contre son maître et contre le Seigneur. Il a résisté tout ça. Mais par la suite, la femme de Potiphar l'a faussement accusé. Et puis là, il s'est ramassé en prison. Combien de temps est-ce que Joseph s'est ramassé en prison? Bien, on sait que pendant 2 ans, il a été pris en prison. Combien de personnes ici, ayant une destinée, une vision pour l'avenir, voudraient se ramasser 2 ans en prison? Non, je ne pense pas qu'on aimerait beaucoup ça. Et vous connaissez l'histoire où les chansons et le panetier du roi d'Égypte étaient en prison avec Joseph. Ça, c'est dans Genèse 40. Et puis là, Joseph a pu donner l'interprétation des rêves. Et là, on a connu que, oui, Joseph avait bel et bien été inspiré de Dieu, avait la bonne interprétation. Et puis là, Joseph espérait que ces hommes-là parleraient de lui, ou en tout cas celui qui a survécu, qui parlerait de lui, et puis là, qui serait libéré. Ce serait l'espoir de n'importe qui est un enfant de Dieu, qui se retrouve dans une situation où il se ramasse en prison. Si moi, j'étais en prison, j'aimerais ça que quelqu'un me délivre. Amen. C'est normal. Et là, écoutez qu'est-ce que Joseph a dit dans Genèse 40, versets 14 à 15. Il parle ici à l'échanson du roi, celui qui portait la coupe du roi. Au verset 14, ça dit, « Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle en ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison, car j'ai été enlevé du pays des Hébreux et ici même, je n'ai rien fait pour être mis en prison. » Donc Joseph, un homme innocent, se retrouve en prison et puis là, il y a de l'espoir d'être libéré. Et qu'est-ce qui se passe? Genèse 40, verset 23. Le chef des échansons ne pensa plus à Joseph. Il l'oublia. Il l'oublia. Wow! Un grand homme de Dieu comme Joseph, avec toute une destinée, se retrouve en prison et même oublié. Est-ce que vous vous êtes déjà senti comme ça dans votre vie? Oublié par quelqu'un. Vous avez de l'espoir dans quelque chose, mais la personne vous a mis de côté, vous a oublié, vous a méprisé peut-être. Hein? Des fois, on passe par des temps difficiles. Et on sait qu'au Genèse 41, verset 1, ça dit « Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. » Donc, Joseph a été plus longtemps que 2 ans en prison. Mais après 2 ans de ce rêve-là, là, on sait que Pharaon a eu un songe. Et là, il avait besoin de quelqu'un qui pourrait interpréter un rêve. Et on connaît le restant de l'histoire. Joseph a donné l'interprétation des rêves que Pharaon avait eus. Et puis, c'était bel et bien la bonne interprétation venant de Dieu. Et par la suite, Joseph a eu sa promotion. Mais moi, je pense, là, des fois, je recule et puis je m'imagine si je vivais dans le temps de Joseph et si moi-même, si j'étais Joseph et je passerais par ces choses-là, se faire trahir par mes frères, me faire vendre, me faire même mettre dans une citerne pendant un temps, après se faire vendre, se faire mettre en prison, tout ça. Et là, je me dirais, hey, le Seigneur m'a appelé à des grandes choses, mais pourtant, pourquoi que ça m'arrive? Avez-vous déjà pensé à ça dans vos vies? Pourquoi qu'une telle chose m'arrive? Seigneur, 2 ans en prison. En plus, il m'oublie en prison. C'est pas drôle, hein? Puis pourtant, Dieu est amour et Dieu est bon. Dieu est amour, Dieu est bon. Et malgré tout ça, ça l'arrive quand même. C'est arrivé. Et puis, en tout cas, je ne dirais pas trop, là, mais il y a quelqu'un cette semaine qui me disait que, en tout cas, ça m'a béni, moi. Quelqu'un me disait, quelqu'un d'autre m'entend parler des prédications que j'entends. Et puis, ils me disent que je suis bien trop positive. OK, cette personne-là. Je suis bien trop positive. C'est pas assez triste chez vous. Moi, en tout cas, je ne dirais pas c'est qui, mais moi, ça me bénit, ça, d'entendre des témoignages comme ça. Parce qu'on veut que les gens quittent l'Église bénis, encouragés. On ne veut pas que les gens arrivent heureux puis qu'ils s'en aillent tristes ou qu'ils arrivent tristes puis qu'ils partent tristes. Il faut qu'ils partent heureux parce que Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il nous fait du bien. Alors, mais tout ça, on voit les épreuves pour vous donner un peu d'équilibre. Vous pourrez dire qu'à l'Église de la Victoire, vous avez entendu des choses équilibrées aussi. Ça ne veut pas dire qu'on est juste toujours sur la nuée avec le Père. Même si spirituellement, on est toujours avec sur la nuée avec le Père. Mais c'est vrai qu'on a des épreuves en tant qu'enfant de Dieu. On passe par des chemins difficiles, comme Joseph a passé par un chemin difficile. Malgré tout ça, Joseph, il n'a pas renié Dieu. Il aurait pu être en prison et dire, « Hey Dieu, oublie-moi là, toute la destinée, je veux plus rien savoir. » Il aurait pu être rebelle contre Dieu et même pendant 2 ans être en prison, il aurait pu être frustré, amer. Mais il a choisi de continuer à croire en Dieu et de marcher dans l'intégrité. Et partout où il allait, Dieu le bénissait. Dieu a fait en sorte qu'il soit recouvert de faveur et Dieu lui donnait des promotions là où il était. C'est que ça, c'est un encouragement pour nous. Amen. Et on connaît la fin de l'histoire. Je vais vous lire la fin de l'histoire quand Joseph est devenu le gouverneur en Égypte. Dans Genèse 45, versets 3 à 8. Genèse 45, versets 3 à 8. Joseph dit à ses frères, « Je suis Joseph. » OK, là, on sait que ses frères sont venus en Égypte parce qu'eux, ils avaient besoin de nourriture, parce que tout le pays était en famine. Et à cause de l'interprétation des rêves, Joseph, lui, avait dit qu'il y aurait de la famine qui viendrait. Et puis là, il avait mis des réserves de côté pendant 7 ans pour les 7 années de famine. Donc, il y avait 7 ans de bénédiction et 7 ans de famine. Et là, quand tout le monde était en famine, le peuple d'Égypte, eux, étaient protégés à cause de la sagesse que Dieu avait donnée à Joseph. Et là, les frères de Joseph arrivent, et puis là, Joseph se présente et dévoile qui il est. Joseph dit à ses frères, « Je suis Joseph. Mon père vit-il encore? » Mais ses frères ne purent lui répondre, car ils étaient troublés en sa présence. Vous pouvez vous imaginer pourquoi. Moi aussi, là, si j'avais trahi mon frère, et là, mon frère serait rendu le gouverneur qui a l'autorité de faire plein de choses, là, j'aurais peur de lui. Mais au verset 4, Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi. » Ils s'approchèrent, il dit, « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Donc Dieu m'a envoyé ici, même avant vous. » Et dans Genèse 50, verset 20, j'aime la conclusion ici, là. Dans Genèse 50, verset 20, c'est dit, « Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Donc, on voit ici là que Dieu, vous savez, il peut prendre toutes sortes de chemins. Et moi, je ne dis pas que toutes les choses que Joseph a vécues, c'était de Dieu. Certainement pas la tentation qui l'a mis en prison. On sait que le mensonge, la tentation et puis le fait qu'il s'est fait emprisonner, c'était pas le cœur de Dieu pour Joseph, mais Dieu a permis cette chose. Puis là, il y en a qui vont dire, ah, attends une seconde, Joël, la permission, il y a la volonté parfaite de Dieu qui va nous arriver, absolument, mais il y a la volonté permissive de Dieu. Puis quand on comprend pas les deux, on peut devenir déséquilibré. Mais il y a une volonté permissive. Dieu a permis ça, OK, pour un but ultime. Et puis, une des choses qui est importante, c'est que Dieu permet ce que nous permettons. Okay? Il y a deux choses qu'il faut comprendre concernant la permission ou la volonté permissive de Dieu. Dieu permet ce que nous permettons arriver et aussi ce qui est mieux pour une collectivité. Okay? Dieu peut permettre qu'on passe à travers un temps comme ça parce qu'il sait qu'au bout de la ligne, là, en bout de compte, ça va porter au bien de plusieurs personnes. Ça veut dire qu'on peut passer par un temps plus difficile où on rush plus, où on a plus à bûcher dans l'esprit, faire plus de choses comme ça, mais parce qu'il sait qu'en bout de compte, là, ça vaut la peine. Mais de l'autre côté, des fois aussi, les gens ils disent que tout ce qui m'arrive, c'est Dieu qui me l'a envoyé. Ça, c'est pas de Dieu non plus. Parce que si c'était le cas, que tout ce qui arrive à un chrétien, c'est envoyé de Dieu, on n'aurait plus besoin de marcher dans le discernement. Amen. Dieu nous appelle à marcher et de discerner qu'est-ce qui vient de Dieu, qu'est-ce qui vient de l'ennemi. Donc, on est supposé de discerner. Et là, quand on réalise que quelque chose vient de l'ennemi, là, on doit résister à cette chose, résister à l'ennemi et il va fuir lui loin de nous. Donc, il faut marcher avec sagesse et il faut marcher avec discernement. Mais quand on fait tout ce qu'on peut dans l'esprit, quand on fait tout ce qu'on peut dans les choses de Dieu et on cherche la présence de Dieu et Dieu permet certaines choses, bien on sait que bien moi, je suis en train de servir le Seigneur et je sais qu'il est en train de préparer des choses en bout de compte pour nous. Et nous, on ne voit pas toutes les choses à l'avance. Comme Joseph, il savait qu'il y avait une destinée en Dieu, mais il ne comprenait pas toutes les choses que Dieu avait en réserve. Il ne connaissait pas tous les chemins dans lesquels il était pour passer. Mais malgré ça, il a décidé de croire Dieu. Amen. Amen. Ça, c'est une chose, je trouve, qui est très importante de réaliser que ce n'est pas tout ce qui arrive à un enfant de Dieu qui est voulu de Dieu, mais le contraire aussi. Il y a des choses qui nous arrivent que des fois, c'est voulu de Dieu, mais ce n'est pas voulu de nous. Des fois, nous autres, ça ne nous tente pas. Mais une des choses aussi, comment voir si ça vient de Dieu ou ça ne vient pas de Dieu, ça vient de l'ennemi, c'est de toujours aller à la parole de Dieu et voir les promesses de Dieu. OK? Donc, il faut aller dans la parole. Et si Dieu dit, par ses meurtrissures, vous avez été guéris, bien, on sait que par ces meurtrisseurs, nous avons été guéris. C'est la volonté de Dieu. Donc, on connaît qu'on n'a pas besoin de passer par une maladie pour apprendre une chose, qu'on a sa parole pour nous enseigner, on a son esprit pour nous enseigner toutes choses. Donc, il faut comprendre ça. De l'autre côté, si on passe par un temps plus difficile où on a besoin de prier plus, mais ça se peut que Dieu permette ça pour notre bien et pour le bien de d'autres personnes. Et comme nous avons vu, nous, avec l'église de Bromont, qu'est-ce qui s'est passé avec l'adversité? Mais qu'est-ce que ça a fait? Ça a formé un noyau et ça, c'est en train de préparer notre envol pour la gloire. Mais tout ça a été permis de Dieu. Si on avait été 500 le premier dimanche, là, bien peut-être on n'aurait jamais eu des réunions de prière à tous les jours comme on a fait. Hein? Mais des fois, Dieu dit, ils ne vont pas mourir. Là. Je vais les laisser n'arracher un petit peu. Ils n'en mourront pas, mais ils vont s'approcher de moi puis ils vont être bénis. Vous voyez? C'est comme ça que Dieu agit. Mais c'est toujours dans l'amour. Hein? Dieu ne nous laisse pas tout seul. Il dit, laisse-les sécher là. C'est pas la théologie qu'on prêche à l'Église la victoire. Non, mais des fois, on passe par des choses plus difficiles pour notre bien. Donc ça, c'est l'histoire de Joseph, comme on connaît bien dans la parole de Dieu. Et la voie de victoire versus celle des hommes. Okay? Le succès selon les hommes, c'est de ne pas avoir de problème. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Quand on n'a pas de problème, ça, c'est le succès. Mais selon Dieu, le succès n'est pas l'absence des problèmes ou l'absence de persécution. Ce n'est pas un signe de succès, ça, quand tout va bien. Le succès, c'est premièrement d'être dans la volonté de Dieu et deuxièmement de marcher toujours dans l'amour. Ça, c'est le succès. Puis on va le voir dans la parole de Dieu. Si on marche dans la volonté de Dieu, qui est en même temps de marcher dans l'amour, on est un succès devant Dieu. Peu importe qu'est-ce qui se passe, peu importe qu'est-ce qu'on fait dans la vie, si on marche dans l'amour, et certainement ça, c'est de marcher dans la volonté de Dieu, bien, on est un succès. Dans Romains 8, 31 à 39, ici, c'est le chemin ou la voie de victoire, selon Dieu. Romains 8, chapitre 31 à 39. Il est écrit, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? » Amen. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui peut s'élever contre nous et nous empêcher d'entrer dans notre destinée? C'est impossible. En autant qu'on prie, qu'on cherche la face de Dieu, puis on est consacré à lui, puis on dit, Seigneur, sers-toi de moi, et même si tous les démons de l'enfer s'en viennent contre nous pour nous empêcher, ils ne sont pas capables de nous empêcher. Parce que si Dieu veut que je sois une place, il va l'ouvrir la place. Peut-être que ce n'est pas aujourd'hui, peut-être que ce n'est pas demain, peut-être que c'est après-demain, mais peu importe, quand Dieu veut quelque chose, il ouvre le chemin. Puis si c'est pas ouvert tout de suite, bien des fois, c'est parce que Dieu dit, OK, attendons un peu, il y a d'autres choses que je veux accomplir en vous, à travers vous, pour vous, avec vous. On ne connaît pas toutes choses comme Joseph, mais qu'est-ce qu'on doit faire? C'est chercher la face de Dieu. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Verset 32. « Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? » Donc Dieu, ce n'est pas un Dieu banqueroute. Verset 33. « Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. » Verset 35. « Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. » Verset 37. « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Voyez-vous, toutes les choses qu'on vient de lire ici, la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril, l'épée, toutes ces choses, il n'y a rien qui peut nous séparer de l'amour de Dieu. Peu importe toutes les choses que l'ennemi peut envoyer dans notre chemin, on est plus que victorieux dans ces choses. Pourquoi? Et quand on lit ça, là, j'ai vraiment eu la révélation cette semaine. Parce que je l'ai lu beaucoup, beaucoup de fois, ce texte-là. Mais au verset 38, on va le prendre au verset 37. « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Voyez-vous encore l'amour, là? Nous sommes plus que vainqueurs. Pourquoi? Au verset 38, ça nous donne la raison. « Car j'ai l'assurance, j'ai la foi qu'aucune de ces choses-là ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. » Puis on le sait, ça, que Dieu nous aime toujours. Puis on l'a lu, ce texte-là. Je l'ai lu toute ma vie. J'ai lu ce texte-là. J'ai revenu là-dessus souvent, plusieurs fois. Mais cette semaine, ça me parlait vraiment. Il n'y a rien de ces choses-là qui pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Puis qu'est-ce qui est merveilleux? Ce n'est pas juste de savoir que Dieu nous aime personnellement, mais qu'on a accès à cette vie de la marche dans l'amour. Donc, peu importe qu'est-ce qui se passe, peu importe les bâtons dans les roues que les gens peuvent nous mettre, nous, on peut marcher dans l'amour. Et il n'y a rien comme ça. Il n'y a personne qui peut vous empêcher d'aimer, si je peux m'exprimer comme ça. Il n'y a personne qui peut vous empêcher de vous aimer ou de se faire aimer. Par exemple, on va parler d'un maire d'une ville. Admettons. Et puis, charnellement, c'est quoi qui pourrait se passer en nous? À la radio, ils ne peuvent pas voir. Mais charnellement, on peut être frustré, être un petit peu, irrité avec une personne. Mais si on marche en dehors de l'amour de Dieu, là, on est en train d'échouer. C'est là ce qu'on est en train de... Là, ça veut dire que toutes ces choses, les persécutions, le péril, l'angoisse, la tribulation, toutes ces choses-là, d'une certaine façon, c'est en train de nous affecter, puis on est en train de marcher en dehors de la marche de l'amour. Mais si, là, malgré ces choses-là, je demeure dans l'amour et j'aime la personne, j'aime les gens qui sont peut-être contre nous ou contre moi ou peu importe, les gens dans vos vies peut-être qui vous tapent ses nerfs, hein, peut-être vous n'avez des personnes comme ça qui vous dérangent, qui vous irritent, mais si vous êtes capable de les aimer quand même, bien là, vous êtes plus que victorieux. Dans 1 Corinthiens 13, 8, ça dit « La charité ne périt jamais ». En anglais, ça dit « love never fails ». En français, on pourrait le traduire « l'amour ne faillit jamais ». Si je marche toujours dans l'amour avec n'importe qui, que ce soit la personne la plus fine ou la plus détestable, je suis dans la victoire. Ça, c'est le chemin de la victoire. Ça fait qu'on peut marcher dans la victoire même s'il y a de l'adversité, parce que l'ennemi n'a pas réussi à nous faire sortir du chemin de l'amour. Voyez-vous? Moi, ça a été une révélation pour moi cette semaine. Je ne sais pas pour vous. Mais en autant que je demeure toujours dans l'amour, peu importe la situation, je marche dans la victoire. Puis la victoire n'est pas déterminée des événements extérieurs. La victoire est déterminée par mon état de cœur. Sauf que nous sommes l'Église de la victoire, peu importe où nous sommes, peu importe à cause avec qui nous sommes et à cause de l'amour de Dieu qui est en nous. Je ne sais pas si ce matin, ça vous dit quoi, là. s'il y a des lumières qui allument. Amen. Gloire à Dieu. Moi, je trouve ça bon, pas parce que c'est moi qui le dis, c'est parce que Dieu qui me l'a montré. J'ai dit, c'est vrai ça, Seigneur. Sauf que moi, ça me parlait. Amen. Et là, Dieu aussi connaît toutes choses. Ça, vous savez, Dieu connaît toutes choses à l'avance. Et puis, on pense à Joseph. Si Joseph, qui était en prison, avait eu un temps de prière, et puis là, le Seigneur avait apparu, puis il a dit, « Joseph, check bien là. Là, tu vas vivre ça, il te reste encore 5 mois. Après, Dieu, je vais faire ça pour toi. Après, ça va se passer, et ça, et ça. » Et là, Joseph, là, il serait comme, « OK, je suis capable, là, je vois le countdown, je peux mettre des X sur mon calendrier. » Et puis là, tout, il pourrait, comme il aurait pu être préparé. Mais Dieu, là, il nous demande de marcher par la foi. Avez-vous remarqué ça? Ça dit « le juste vivra par la foi ». Ça dit pas « le juste vivra » parce que tout est écrit à l'avance pour lui. Et puis là, il juge que Dieu a un bon plan et puis finalement, il décide d'accepter ce plan-là. C'est pas une évaluation du plan de Dieu que Dieu nous appelle à faire. Dieu dit « le juste vivra, il marchera par la foi ». Et c'est ça qu'on est supposé de faire. Et la foi, ça veut dire qu'on voit pas tout à l'avance. On voit pas le chemin de Dieu à l'avance. Et moi, là, je me souviens quand j'avais 19-20 ans, je cherchais la face de Dieu concernant mon avenir. Là, je m'en allais à l'université, puis je faisais toutes sortes d'affaires, mais c'était pas rien de mal, mais c'était pas le plan parfait de Dieu pour ma vie. Et Dieu m'a arrêté dans mes tracts, comme on dit. Là. Dieu m'a arrêté pour me montrer des choses, pour faire en sorte que je puisse vraiment avoir la foi qui était pour me guider toute ma vie et que c'était un pas à la fois. Dieu nous guide toujours un pas à la fois. Dieu ne nous donne pas une carte. OK, avec tout le chemin tracé, puis dit, tu pars du point A, point B, et voici tous les chemins que je vais employer pour toi. Mais Dieu, il nous demande d'avoir confiance. Si on est au point A, et il dit, tu vas te rendre au point B, c'est tout ce que Dieu dit des fois. Parce que là, il faut avoir la foi que Dieu, je vais te suivre tout le long. Amen. Parce que Dieu connaît toutes choses à l'avenir. Même un autre exemple, ce matin, je pensais à ça dans Genèse 22. Genèse 22, versets 1 à 2. Ce que Dieu cherche, là, c'est un peuple de foi. Puis moi, je pense, là, ça se peut bien qu'on passe à travers des défis, OK? Juste comme ça, que Dieu puisse nous raffiner, pour qu'on puisse vraiment être des personnes de foi. Est-ce que ça se pourrait? Est-ce que ça se peut que parmi nous, on a besoin d'avoir notre foi travaillée un peu? Genèse 22, vous connaissez l'histoire. Après ces choses, dit Dieu, mit Abraham à l'épreuve. Et lui dit, « Abraham, » et il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » C'est atroce, ça, comme commandement que Dieu donnait. Et là, Abraham, avec son jugement d'être humain, aurait pu dire, « Mais Seigneur, c'est contre tes principes, je sais que c'est les païens qui font ça. » Mais Abraham était assez obéissant, qu'il était prêt à entendre un commandement comme ça et prêt à même obéir. Dieu se cherchait quelqu'un qui était pour marcher par la foi, même si ça ne tentait pas, même si c'était difficile. Verset 11. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham! » Il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. » Car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Ça, c'est une autre chose, comment Dieu nous révèle comment il aime, il chérit la foi, notre foi en lui, et qu'on soit prêt à faire des choses même qui ne font pas de sens des fois. Ça ne semblait pas raisonnable, ça, mais il était prêt à aller jusqu'au bout, et Dieu, bien sûr, n'aurait pas demandé une telle chose parce que ça serait contre sa volonté. Donc, les voies de Dieu sont au-dessus de nos voies, mais dans 1 Corinthiens 2, 16, on sait ici, nous avons la pensée de Christ. Comme on prie, comme on cherche Dieu, Dieu va nous donner sa pensée sur des sujets, sur des situations dans lesquelles on est. Et dans 1 Corinthiens 13, 12 à 13, il est écrit, « Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité, mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. » Encore une fois, on voit qu'est-ce que Dieu aime, la foi, l'espérance, que cette foi-là va se réaliser, la charité qui veut dire l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Pourquoi? Parce que l'amour ne faillit jamais. Puis si on marche dans l'amour, on est victorieux, c'est garanti. Et dans Daniel 2, versets 20 à 22, ça nous montre ici que Dieu est au contrôle. Daniel prit la parole et dit, « Béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure en lui. » Donc, Dieu change les temps et les circonstances. Il renverse et il établit les rois. Si on a besoin de faveur, Dieu sait quoi faire. Amen. Dieu sait quoi faire avec un village, une ville, une province, un pays. Dieu sait quoi faire. Il dit, c'est lui qui change les temps et les circonstances. Donc, nous, nous ne sommes pas des victimes des circonstances. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On sert le Seigneur, on suit le Seigneur. On est conduit dans les voies du Seigneur, on garde notre foi en lui et puis on garde notre joie. C'est simple, parce que c'est Dieu qui est au contrôle. Il connaît ce qui est dans les ténèbres. S'il y a des choses à exposer, Dieu le fait. Amen. Amen. Donc la volonté de Dieu s'accomplira certainement. Il connaît la saison et l'accomplissement. Il connaît la saison de l'accomplissement. Qu'est-ce que Dieu a dit? Il va le faire. On n'a pas à s'inquiéter. Comment? Nous, on a simplement à être disponible pour Dieu. C'est le fun, ça, hein? Ça nous enlève de la pression. On a juste à être disponible. OK, Seigneur, quand toi, tu seras prêt, nous autres, on fait qu'est-ce qu'on peut. On prie. On prie ta volonté sur la terre. Hein? On prie. On prend les paroles de Dieu, on les met dans nos bouches, on les décrète. Et on s'attend que Dieu fait des choses. Je parlais avec Dr. Hill, il me disait, tu sais, Joël, des fois, on fait des choses, là. Lui, il me disait, dans le passé, il dit, des fois, j'ai fait des choses et c'est juste pour des générations à venir. Des fois, on fait du travail dans l'esprit, dans le monde spirituel, puis on ne sait même pas. Il dit, moi, il dit, je suis rentré dans la destinée dans laquelle j'étais, là. C'est ça qu'il me disait. Il dit, mais c'est à cause du travail de d'autres avant moi. Puis c'est ça le corps de Christ, on travaille ensemble, on prie des choses. Des fois, là, j'étais en Alberta, puis je pouvais prier pour la Chine, par exemple, mais je ne suis jamais allé en Chine. Mais pourquoi que je ferais ça? Mais peut-être le Seigneur avait besoin que quelqu'un intercède pour quelqu'un en Chine. On prie des fois pour des gens qu'on ne connaît pas, pour des places qu'on ne connaît pas, et des fois, c'est même pour des générations futures. On est en train de travailler. Qu'est-ce que Dieu se cherche? C'est un genre des gens de foi et des gens obéissants, des gens qui ont le cœur de Dieu. Amen. Amen. Donc, on peut entrer dans le repos de Dieu. Dans Hébreux 4, 9 à 11, ça dit, « Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. » Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Dieu veut qu'on marche dans l'obéissance, et efforçons-nous d'entrer dans ce repos. Efforçons-nous. C'est quelque chose qu'on doit prendre comme décision. Et savez-vous pourquoi c'est une force que ça prend? Parce que des fois, là, c'est plus naturel de se casser la tête. Des fois, c'est plus naturel d'essayer par la chair, mais ce n'est pas ça que Dieu demande. Dieu ne demande pas ça. Efforçons-nous d'entrer dans son repos. Et là, dans Proverbes 3, 5 et 6, ça dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. » Encore une fois ici, on parle de confiance, de foi. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » C'est ce qu'on a fait ici. Hein? On l'a reconnu dans toutes nos voies. Ensemble, on a compris. On était pendant un temps à l'auberge et Dieu a fait quelque chose là. Ensuite, on est allé à l'aéroport et Dieu a fait quelque chose là. On l'a reconnu on a reconnu ses voies. On a reconnu qu'est-ce qu'il a fait pour nous. Et là, on va reconnaître davantage aussi dans les semaines et les mois à venir qu'est-ce que Dieu va faire à travers nous. Mais ça, c'est une résolution qu'on prend dans nos cœurs. C'est d'être conduit de Dieu et de se reposer en lui parce que sa volonté va s'accomplir. Et des fois, même la chair, comment on peut se poser des questions et des fois entrer dans des temps de découragement. Je me souviens, il y avait un monsieur en Alberta qui pesait environ, je dirais peut-être 300-350 livres. Et puis, il était découragé, puis il dit, « Ça fait des années que je prie. Ça fait des années que je prie de plus avoir de diabète. Je comprends pas. Dieu me guérit pas. Prends d'autres pizzas. » Il me jase de ça. « Je comprends pas. Je prie pour pas avoir le diabète. J'ai des problèmes. » Mais là, on se dit, on n'osait même pas lui dire, mon épouse et moi, on était comme ça. Il ne comprenait pas pourquoi il y avait des problèmes de santé. Puis des fois, là, on se dit, vous savez, il faut faire attention des fois parce qu'on rentre dans le charnel puis on n'est même pas assez terre à terre d'une certaine façon. On se dit, Dieu a une destinée pour toi, Dieu a une provision pour toi. Mais de l'autre côté, il ne faut pas juste dire qu'on marche par la foi puis qu'on oublie d'avoir notre responsabilité humaine aussi. Hein? Parce que Dieu nous demande de faire des choses. Comme si Dieu nous appelle à faire quelque chose de glorieux, bien, Dieu ne veut pas juste qu'on prie, mais Dieu veut qu'on mette des actions aussi, qu'on fasse de quoi. Donc, il faut se reposer. On sait que Dieu est en contrôle, que Dieu fait des choses. Mais de l'autre côté, il ne faut pas dire, on va rester ici jusqu'à temps que Dieu fasse tout pour nous. Hein? Des fois, il faut prendre des pas par la foi. Puis si, admettons, on pèse 350 livres et on a des problèmes, Dieu veut nous guérir. C'est sûr, ça, c'est le plan de Dieu, c'est le cœur de Dieu. Il ne veut pas qu'on ait ce diabète-là. Mais si on est en train de se tuer en même temps, on est en train d'aller à l'encontre de sa volonté aussi. Ça fait que, je pense que c'est une question d'équilibre dans tout ça. Donc, il faut se reposer en lui et il faut demeurer affermi dans la foi également. Ça, c'est une chose, demeurer affermi. Si on va aller combattre et aller à la guerre dans le monde spirituel, dans la prière, il faut saisir la foi. Amen. Et la parole de Dieu dans Ésaïe 55, verset 11, ça dit, « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. » Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Ce que Dieu a dit, il va l'accomplir. Donc, demeurons affermis dans cette parole de foi que Dieu nous a donnée, que sa parole va s'accomplir. Et aussi, il faut garder la foi dans les prières qu'on a priées. Il ne faut jamais dire, on a prié une telle chose et ce n'est pas arrivé exactement comme on voulait ou au moment qu'on voulait. Et là, on abandonne. Non! Ce qu'on a prié, qui était poussé de Dieu, il faut garder notre foi que ces prières-là font quelque chose encore. Savez-vous pourquoi? Apocalypse 5, versets 7 à 8. Ça, c'est un texte bénissant. Apocalypse, chapitre 5, 7 à 8. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. On sait ici, ça parle de Jésus. Quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants et les 25 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, donc Jésus-Christ, tenant chacune une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Chaque prière que vous avez déjà priée dans le passé, ok, sont conservées par Dieu. Chaque prière, on se dit comment est-ce que Dieu peut conserver ça? Une prière, c'est des paroles, hein? Mais comment est-ce qu'il fait ça? Je ne le sais pas. Je ne le sais pas, mais Dieu le dit. Il dit ici, tenant chacune une harpe donc, et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et nos prières, là, ça monte dans les narines de Dieu comme des parfums. Dieu conserve chaque prière qu'on a priée qui est en accord avec sa volonté. Chaque prière qu'on a priée pour Bromont, ça monte dans les narines de Dieu. Et Dieu a fait quelque chose. C'est merveilleux, hein? Amen. Et si vous avez prié pour vos enfants qui sont perdus, je ne sais pas, ou peut-être vous priez pour quelqu'un qui est malade, toutes ces prières-là, Dieu ne les a pas mis de côté. Il dit, elle a prié ça pendant 2 semaines, elle a arrêté, oublie ça, c'est fini. Non, il les garde toutes. Elles sont toutes conservées. C'est impressionnant, des coupes d'or conservées. Elles sont toutes conservées dans ces coupes d'or-là, au ciel. Amen. Sauf que ça, c'est une façon qu'on se garde dans la foi. On dit, Seigneur, on a prié, on a prié, on a prié, on sait que tu agis, on sait que tu fais quelque chose. Et il faut aussi garder la perspective céleste. Peu importe les tribulations, peu importe les difficultés dans lesquelles vous êtes peut-être. Moi, je ne connais pas toutes vos vies personnellement, qu'est-ce qui se passe dans vos vies. Mais gardez toujours la perspective céleste quand vous passez à travers des choses difficiles. Parce que quand vous faites ça, ça devient tellement plus facile. Je vous raconte, il y a quelques années, même plusieurs années, pendant que j'étais aux études, je travaillais pour un club de golf. Et puis, j'étais là pour donner les cartes. Vous connaissez les petits cartes, là, où les gens viennent se prendre des cartes pour aller jouer au golf. Puis, j'avais fait une gaffe. Je me souviens plus c'est quoi, là, juste pour vous montrer comment c'était pas important. Mais j'ai fait une gaffe. Puis là, j'étais comme, oh non, je me sentais tellement mal. Puis, j'étais assis dehors. Puis là, j'étais dans ma chaise. Puis, j'attendais que les gens viennent pour demander des cartes. C'était ça, ma job. Puis là, j'étais assis là. Puis, je me sentais mal. Puis là, tout d'un coup, le Seigneur me dit, dans un million d'années, la situation que tu viens de vivre là, ça va-tu vraiment être important? J'étais comme, pas vraiment, pas vraiment. Et là, juste pour vous dire, ça fait peut-être, je sais pas, peut-être 15 ans ou 10 ans de ça, je m'en souviens même plus c'était quoi l'erreur. Ça fait même pas 10 millions d'années, mais ça fait peut-être 10 ans. Mais c'est comme ça, des fois, il faut remettre en perspective les choses qu'on vit. Si jamais là, vous connaissez quelqu'un là, ou vous-même, puis vous êtes tous là, stressés de la vie, là, puis vous êtes en train d'arracher vos cheveux, par exemple, arrêtez-vous et là, entendez ma voix. Dans 10 millions d'années, ça va-tu valoir le coup? C'est vrai, quand on remet tout en perspective de l'éternité, finalement, c'est pas grand-chose. Hein, peu importe les choses qu'on peut vivre. C'est-à-dire qu'on garde la perspective éternelle, la perspective céleste. Puis on se dit, des fois, on prie des choses, puis nous, on a la foi pour ça tout de suite. Et des fois, on le vit tout de suite, et des fois, c'est pas tout de suite. On continue à croire que nos prières, que la parole qui a été décrétée, toutes ces choses-là, ça continue à travailler dans le monde spirituel. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et puis, une autre chose concernant les épreuves. Je sais que Dieu, des fois, nous met à l'épreuve. Puis il y a des chrétiens qui disent, des fois, les chrétiens disent, Dieu, il ne met jamais les gens, ses enfants, à l'épreuve. C'est vrai que Dieu ne tente pas les gens dans le péché. Ça, je ne crois pas que Dieu tente les gens ou ses enfants dans le péché. Cependant, comme on a vu tantôt, Abraham était éprouvé par Dieu pour voir la foi, tout ça. Mais moi, je me souviens un temps, mon épouse et moi, on était partis prêcher au Nouveau-Brunswick. Puis là, on conduisait, ça prenait 10 heures. Et là, ma femme, elle disait, « Waouh, je voudrais jamais aller vivre là-bas, dans le fin fond du bois. » Il fallait conduire 10 heures de temps. Puis il y avait un temps, là, c'était, je pense, pendant une heure, là, ou peut-être plus que ça, on était dans le bois, littéralement. Puis là, ça disait, « Dans une demi-heure, vous allez arriver au milieu, et là, vous pourrez mettre de l'essence, parce que c'est rendu à une telle place. » Puis après, vous continuez. Et c'est qu'il faut arrêter là, sinon on arrête. Sauf que là, c'était tout un voyage. On s'en allait là-bas faire du ministère au Nouveau-Brunswick. Là, Mathieu a dit, « Jamais de la vie que je voudrais vivre ici, en tout cas. » Là, on arrive à l'église où je prêchais, où je faisais du ministère. Et là, Mathilde a dit, « Oh mon Dieu, c'est tellement poche! » Elle dit, « Jamais de la vie que je voudrais venir dans cette église ici! Jamais, jamais de la vie! » C'est que ça, c'est spécial. Qu'est-ce qui se passe après? Je rencontre le pasteur et son épouse, on va au restaurant. Et puis là, le pasteur, il me dit, « On aimerait ça t'inviter à devenir un pasteur dans notre équipe ici. » Et là, tout d'un coup, je savais, je ne pouvais pas dire oui, ma femme n'était pas du tout d'accord. Sauf que là, je dis, ah, ben c'est bien gentil, mais je pense que j'ai dit, on va prier là-dessus, quelque chose comme ça. C'est qu'on mange avec lui, tout ça. Là, je retourne au Québec, et puis là, je parle avec le pasteur au téléphone. Puis c'est sûr, je dis, ah, ben on ne sent pas guidé par l'Esprit de Dieu dans cette direction. On ne sent pas guidé. Mais là, finalement, je raccroche, puis là, Mathilde, elle me dit, ouais, mais d'un coup, c'était Dieu, cette affaire-là. D'un coup, c'est ça que Dieu veut. Là, je suis comme, bon, OK, je rappelle. Je dis, ben, pouvez-vous m'expliquer un petit peu c'est quoi vous voulez vraiment, comme c'est quoi votre vision? Là, il m'explique tout ça. Je dis, OK. Sauf que là, il m'invite pour aller passer l'entrevue avec les anciens. Sauf que là, je m'en vais au Nouveau-Brunswick, je prends le train. Sauf qu'on s'en va faire le voyage là-bas. Puis là, pendant 2 heures, on me pose des questions théologiques avec un conseil d'anciens. OK? Puis ils sont là, des personnes âgées. Poser des questions sur toutes mes affaires, là. Voir si j'étais un bon bonhomme. Et puis, là, je passe l'entrevue. Puis finalement, ils me disent, « T'as passé, on veut t'avoir. » Ça fait que là, on s'en va, je retourne, puis là, je pense d'être engagé au Nouveau-Brunswick, dans une place où on ne voulait pas aller. Mais on s'est dit, ben, peut-être c'est ça que Dieu veut, puis c'est pas à nous de décider où on va faire du ministère, c'est Dieu qui est supposé nous guider. Ça fait que là, je retourne au Québec, et puis là, je reçois un appel. Le pasteur me dit, il dit, hey, notre famille qui payait le plus dans toute l'église, ils ont déménagé, puis là, on n'a plus les finances pour payer un salaire, mais on veut t'avoir quand même. J'étais comme, là, il dit, là, qu'est-ce qu'on va faire? Il dit, on va passer un vote d'église, et puis on va demander aux gens si on devrait emprunter un an de salaire pour toi, et puis si c'est 80% que tout le monde est d'accord, comme quoi, là, tu vas déménager ici, là, tu vas pouvoir venir. Sauf qu'on dit, ah, OK. Parfait. Ça fait que là, ils passent leur vote d'église. Puis nous, de notre côté, on dit, Seigneur, si tu veux qu'on y aille, on va y aller là-bas. Mais si tu veux pas, ouvre une porte, fais en sorte qu'on y aille pas là-bas. On voulait pas y aller. Je peux vous dire, on voulait pas. Ouvre une porte ou ferme les portes, Seigneur. Faites quoi? Et puis finalement, il me rappelle, il dit, ouais, ben mon frère, il dit finalement, il dit, ça de l'air que c'était pas la volonté de Dieu. Là, j'entends son épouse en arrière qui dit, not the will of God. C'était la volonté de Dieu. Il était tout frustré, elle. Parce que le vote, c'était 78% en faveur. Et nous autres, je pense que c'était 78 ou 79, je ne m'en souviens plus, mais je pense 78. Mais juste pour dire là, qu'on n'y allait pas. Et puis ma femme était contente. Et moi, j'étais content. Et là, il ne faut pas que ça passe au Nouveau-Brunswick, cet enseignement-là. Mais on est au Nouveau-Brunswick aussi à radio. Mais en tout cas, tout ça pour dire que, vous savez, ça, c'était pas dans notre cœur, mais Dieu nous a mis à l'épreuve pour voir, êtes-vous prêt à aller n'importe où pour moi? Même si ça vous tente pas. Et, ben, heureusement, je peux vous raconter l'histoire pour vous dire, on a passé le test cette fois-là. Parce que plus tard, Dieu était pour nous demander encore une autre fois d'aller ailleurs. Et ma femme, elle m'avait demandé, elle dit, promets-moi qu'on va toujours vivre au Québec. Qu'on va toujours habiter comme dans la région de Bromont, puis on peut se promener partout à travers le monde, là, mais on va toujours revenir au Québec. Et moi, j'ai dit, je te promets, chérie, on va toujours être au Québec. Et là, finalement, comme vous savez, on a habité 4 ans en Alberta. Mais Mathilde était d'accord avec moi aussi, là, avec le voyage. Elle voyait la main de Dieu. Mais tout ça pour dire, Dieu nous avait mis à l'épreuve avant. Et là, finalement, quand c'était l'appel véridique pour le déménagement, on était prêt, on a dit oui, Seigneur, on va y aller. Et Dieu a béni, puis on était content d'y aller. Mais Dieu, des fois, nous passe à l'épreuve pour voir notre cœur, voir notre foi. Est-ce qu'on va perdre courage tout d'un coup? Est-ce qu'on va renier le Seigneur comme il y en a qui vont faire? Ou est-ce qu'on va continuer à marcher avec lui puis dire, Seigneur, toi, tu es au contrôle. Nous, on se met sous ta domination, on se met sous ton autorité. On va prier qu'est-ce que tu veux qu'on prie. On va continuer à faire qu'est-ce que tu veux qu'on fasse. Et puis, Seigneur, on met notre foi en toi. Et moi, je choisis cette dernière. Je choisis, moi, de croire Dieu. Puis en même temps, de marcher avec sagesse selon ce que Dieu va nous montrer à faire. Hein, Dieu nous appelle à lui faire confiance et de marcher dans la sagesse aussi qu'il va nous donner pour le moment présent. Sauf que ça, c'était qu'est-ce que j'avais sur mon cœur à vous partager ce matin. C'était simple, mais les voies de l'Éternel, des fois, sont plus compliquées qu'on pense ou sont pas compliquées pour Dieu, mais pour nous, on les voit comme compliquées. Hein? Et Dieu, je peux terminer avec un verset dans la parole de Dieu dans Jacques. Chapitre 1, versets 2 à 4, il est écrit, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. » Donc, Dieu est en train de faire tout un travail en nous. Hein? Il est en train de nous rendre patients et puis même parfaits. Mais ça, le mot parfait, ça veut dire mature. Okay? Mais Dieu est en train de nous rendre matures en Dieu et accomplis sans faillir en rien. Hey, c'est merveilleux. Si on passe à travers quelque chose, là, c'est pas parce que Dieu veut faire de nous des échecs, mais Dieu veut faire en nous des succès. Hein? Qu'on va pas faillir dans notre foi. On va garder nos yeux fixés sur lui. Et on va entrer dans notre destinée ensemble parce que, comme j'ai dit au début, le Québec a besoin d'un message prêché. Le Québec a besoin de plus que des humoristes. Ils sont corrects, ils peuvent nous faire rire, mais on a besoin de leur donner l'espoir aussi. Hein, les gens ont besoin de plus que des petits médaillons d'anges. Ils ont besoin de recevoir le Saint-Esprit en dedans d'eux qui va les sauver. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Et puis, je vais inviter Martine qui va venir nous conduire dans un chant ou deux pour la fin. Et on va juste prier pour remettre ce temps à Dieu, puis que Dieu continue à travailler dans nos cœurs avec ce message, qu'il puisse le faire porter fruit, que ça puisse pousser comme des plantes en dedans de nous, qu'on soit rempli de cette verdure céleste. Seigneur Dieu, on vient devant toi et on veut te remercier, Seigneur, pour tes paroles d'encouragement que tu nous donnes. Merci, Seigneur Dieu, parce que tu connais le chemin, tu connais les saisons, tu connais toutes choses, Seigneur, et on sait que tu veux toujours notre bien. Malgré les temps plus difficiles, Seigneur, on sait que toi, Seigneur, tu es là au bout du chemin et on te suit. On te suit, Seigneur Dieu. Et on te remercie pour ta lumière, la lumière de ta parole qui éclaire notre chemin, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu nous conduis toujours dans la paix et dans la joie. Merci, Seigneur Dieu, de nous entourer de ta présence. Et merci, Seigneur, qu'on t'a connu, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu t'es révélé à nous. On te remet cette journée, Seigneur, et on prie, Seigneur, que ta présence accompagne chaque personne d'une façon puissante, Seigneur. Qu'ils puissent quitter cette place rencontrée de ta part. Béni. Merci, Seigneur, d'avoir fait de nous des chouchous, comme tu as fait avec Joseph, qui était le chouchou de son père. Merci, Seigneur Dieu. Alléluia. Merci pour ce chemin de victoire que tu nous donnes. Ce chemin dans l'amour. On va aimer tout le monde, Seigneur Dieu. On prend cette décision ensemble ce matin. On va aimer tout le monde. Même les gens qu'on trouve ça, c'est un défi pour nous des aimer. Mais si on choisit ce chemin de succès, de l'amour. Et on te glorifie, Seigneur. Puis on te remercie à l'avance, Seigneur, pour ce que tu vas faire à travers nous. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Amen.
Merci d'avoir écouté ce message de victoire. Nous espérons qu'il a été une bénédiction pour votre vie spirituelle. Pour de plus amples informations sur le pasteur Joel Spinks ou encore sur l'Église de la Victoire du Québec, visitez le www.evqmedia.com. L'Église de la Victoire du Québec, pour l'amour de la francophonie.